J'aimerais parler ce matin sur Élie et le miracle de la pluie, dans 1 Rois, chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume d'une main d'homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Achab, « Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Amen. Voilà, nous connaissons bien Élie, qui est un prophète de Dieu, qui est appelé aussi un homme de Dieu, car il a une relation avec Dieu par la prière, il parle à Dieu et il entend la voix de Dieu lui parler. Élie, donc, représente le croyant qui marche selon l'Esprit. C'est ce que nous devons réaliser, que nous ne sommes pas juste des croyants. Quelquefois, certains disent « je suis croyant, mais non pratiquant ». Ce sont des personnes qui ne vivent rien avec Dieu, qui n'entendent pas Dieu, qui ne parlent pas à Dieu, mais d'être des croyants remplis du Saint-Esprit. Voilà comment la parole de Dieu nous engage à être, des chrétiens nés de nouveau, qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur et qui vivent dans la puissance du Saint-Esprit. C'est un homme qui, dans l'Ancien Testament, a été utilisé par Dieu. Il n'y a pas encore eu la venue de Jésus, il n'y a pas encore eu la Pentecôte, comme ça va arriver par la suite, mais il y a déjà des hommes, des femmes qui sont utilisés par Dieu pour faire les œuvres que Dieu a définies. Cet homme s'est levé dans un temps d'apostasie. Il faut rappeler que dans le contexte du premier livre des rois, c'est donc Achab, le roi d'Israël, qui règne avec Jézabel. C'était une femme méchante, une femme sanguinaire qui faisait tuer les véritables prophètes de l'Éternel. Et notamment Élie était menacé par Jézabel. Mais il a confronté ces rois, ce roi Achab, cette femme Jézabel, et Dieu a béni et préservé son serviteur. Il y avait une époque de famine, de sécheresse, pendant 3 ans et demi. Et pendant tout ce temps-là, comment Dieu agit? Eh bien, il a dépêché des corbeaux pour amener de la viande et du pain le matin et le soir. Et on voit que, alors qu'il était au torrent de Kérit, il ne manquait de rien. Dieu a veillé sur lui toutes ces années. Et puis un jour, le torrent est allé à sec, alors Dieu a pourvu d'une autre manière. Car Dieu n'est pas limité par une situation. Peut-être aujourd'hui, il pourvoit d'une manière et puis ça va s'assécher. Mais la porte qui est fermée, une autre va s'ouvrir. Et cette autre porte, ça va être une veuve en dehors d'Israël, dans la ville de Sarepta, qui est dans le territoire de Sidon, donc à l'extérieur d'Israël. Il a quitté Israël pour aller chez cette veuve. Et là, le miracle, en fait, se poursuit parce que l'huile qui est dans le pot n'a pas manqué, la farine s'est multipliée et cette veuve a pu faire à manger pour elle, pour Élie, pendant plusieurs mois, plusieurs années, et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. On arrive donc au chapitre 18. Le passage que nous avons lu se situe dans un contexte de confrontation. Car le roi Achab ne voulait pas du Dieu annoncé par Élie. Alors, Élie a proposé de confronter les prophètes. Et nous aussi, nous devrons confronter des oppositions. Car si nous sommes chrétiens, il faut rappeler ceci, c'est que nous sommes la lumière du monde, nous sommes du royaume de Dieu. Ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Mais il existe un autre royaume qui s'appelle le royaume des ténèbres, dont Satan est le gouverneur. Et forcément, quand on est du royaume de Dieu et qu'on est en contact avec des personnes qui sont du royaume des ténèbres, il y a une confrontation qui va se passer. Un petit peu comme Élie et les faux prophètes d'Astarté, de Baal, qui étaient là en face de lui. Une confrontation de puissance. Il ne faut pas le craindre. Et dans cette confrontation, donc Élie est seul, et parfois vous serez seul, vous n'aurez pas la majorité avec vous. Ce n'est pas toujours la majorité qui a raison, donc vous pouvez être seul et avoir raison. Élie est seul, il a son Dieu avec lui. En face de lui, il y a 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Nous dirons, c'est l'opposition, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi qui fait rage et qui s'oppose au dessein de Dieu. Que faire ? La première réaction, c'est la peur, c'est la fuite, c'est de se dire, nous n'y arriverons pas. Mais rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes remplis du Saint-Esprit pour une mission. Cette mission consiste à aller et à être des témoins dans ce monde, à parler du Seigneur. Confrontation de puissance, il va y en avoir. Mais nous sommes avec le Seigneur. Donc Élie est conscient que Dieu est avec lui. Bon, il y a 850 en face de lui qui sont opposés à lui, mais Dieu est avec lui. Dieu est avec nous, donc nous devons faire confiance. Alors, en confrontant ces prophètes, il dit maintenant, rebâtissez l'autel qui a été renversé. Première chose, nous devons rebâtir tout ce que l'ennemi a renversé et remettre les choses de Dieu en priorité. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Rebâtissons selon la parole. Et puis ensuite, il prie pour que le feu de Dieu tombe sur l'autel. Alors que les prophètes de Baal et d'Astarté ont prié, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Ces faux dieux n'existent pas, ils ne répondent pas. Mais Élie prie et le feu du ciel va tomber et le peuple va confesser que c'est l'Éternel qui est Dieu. Le feu du ciel, ça représente le feu du Saint-Esprit qui va consacrer l'Holocauste. Pour nous, ça représente la Pentecôte, ça représente le feu qui vient d'en haut et qui nous consacre au service de Dieu. Ce feu du Saint-Esprit, nous en avons besoin car peut-être certains ont goûté à la plénitude du Saint-Esprit, au feu du Saint-Esprit, le jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, ça s'est atténué, voire ça a disparu. Et ça, c'est un piège dans lequel nous devons lutter pour être constamment remplis du Saint-Esprit et du feu du Saint-Esprit. Alors, notre texte arrive maintenant dans ce contexte donc, d'opposition. Il y a la sécheresse dans le pays. Mais Élie, je remarque que malgré les difficultés ambiantes, c'est un homme de Dieu qui s'attend au miracle. Et ça, c'est aussi important pour nous de dire peut-être on est dans un temps de sécheresse, un temps défavorable, car c'est toujours plus facile de s'attendre à Dieu quand les choses sont favorables. On n'a pas besoin vraiment de faire d'efforts, puisque voilà, c'est, le vent souffle du bon côté, on avance bien, alors on a tendance même un petit peu à se relâcher. Mais quand les éléments sont négatifs, ici tout est défavorable, il y a l'opposition qui est en face, il y a beaucoup de choses qui se dressent contre lui, il y a la sécheresse dans le pays, est-ce que là nous allons trouver encore des chrétiens qui s'attendent au miracle ? Ça c'est plus difficile et il y a beaucoup moins de candidats quand il y a la sécheresse. Peut-être c'est la maladie qui vient frapper, ou alors c'est une difficulté financière qui survient, c'est la solitude, c'est des situations sans issue. Mais c'est là que nous devons être des chrétiens et croire dans le Dieu du miracle. Ce n'est pas quand tout va bien seulement qu'il nous faut croire, mais c'est particulièrement quand tout est défavorable. Ici, c'est le cas. Au verset 41, je remarque qu'Élie entend des choses que les autres n'entendent pas. Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Une autre version dit, c'est la version Semeur, « J'entends, le grondement qui annonce l'averse. » Mais en fait, il n'y a aucun bruit. Et en réalité, le roi Achab, il n'entend rien du tout. Et pourtant, le prophète est capable d'entendre des sons. On pourrait parler de sons spirituels. Peut-être c'est Dieu qui lui a mis cette pensée dans le cœur. Il y a une pluie qui arrive et lui, il en entend le bruit. Il en perçoit le bruit d'une manière intense. La version Darby dit « Il y a un bruit d'une abondante pluie. » Alors, avec nos oreilles, nous entendons bien les sons de ce monde et Achab pouvait bien entendre le prophète lui parler, il pouvait entendre sa femme Jézabel lui parler, il pouvait entendre l'armée qui était autour de lui ou les faux prophètes invoquer leur Dieu. Mais quant à entendre le bruit qui annonce la pluie, ça c'est une autre audition. Ce n'est pas une audition charnelle, terrestre, humaine, des bruits de ce monde. Il s'agit d'ouvrir notre oreille au son de Dieu, à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Et ça, ça va débloquer les choses, parce que Élie, en communion avec Dieu, entend en fait des choses qui vont arriver dans les heures qui vont suivre. Élie est attentif aux paroles de Dieu. Si nous voulons entendre les sons de Dieu, il faut les rechercher. Acab ne cherche pas ces choses-là. Acab, il vit centré sur lui-même, sur ses besoins. Il ne croit que ce qu'il voit. Il représente l'homme qui vit selon la chair, selon les choses terrestres. Élie cherche les choses d'en haut. Il cherche à entendre la voix de Dieu. Si nous ne cherchons pas, hein, comme dit Paul, aspirer, ça veut dire rechercher avec intensité, aspirer aux dons spirituels, si nous ne les recherchons pas, eh bien nous ne les obtiendrons pas. Il y a une nécessité de se réveiller, de se dire, eh bien, je vais cesser ma routine, je vais cesser d'être négligent, je vais me mettre à prier, je vais me mettre à jeûner, je vais me prendre tel jour, je vais me mettre à part, je vais écouter sa voix. Ah oui, ça nécessite des efforts, ça nécessite des décisions personnelles, car ces choses-là ne viennent pas toutes seules, naturellement. Ce sont ceux qui cherchent, ce sont ceux qui ont faim, ce sont ceux qui ont soif, qui reçoivent. Donc Élie, lui, il est attentif. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette situation? Prions pour cela. Cherchons la face de Dieu. Ésaïe 50, verset 4, dit ceci. Le Seigneur éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à écouter Dieu en disant, Seigneur, parle-moi. Tu vas peut-être me parler par la parole. Tu vas peut-être me parler par un collègue de travail, ou tu vas me parler par un frère, par une sœur. Tu vas me parler au travers de la prédication. Tu vas me parler peut-être au travers d'un don spirituel. Mais voyez, cette attente à ce que Dieu nous parle, elle doit être inscrite dans notre cœur. Car si je ne m'attends à rien, c'est un petit peu comme si je ferme mon cœur aux choses de Dieu. La parole, je ne m'attends pas à ce que Dieu me parle, je lis simplement le texte. Bon, c'est toujours bien de lire la Bible, mais si on s'attend à rien, on ne vit rien. Je vais dans la journée, je poursuis ma journée, je ne m'attends pas à ce qu'il se passe quelque chose. Je ne m'attends pas à recevoir une pensée, une direction ou une parole de Dieu à donner. Je ne m'attends à rien. Et finalement, je ne vis rien. Et parce que je ne cherche pas, je n'ouvre pas mon oreille pour écouter comme écoute un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui est au pied de son maître et qui boit les paroles, il reçoit les paroles et il cherche à entendre ce que dit le maître. C'est ça, c'est nous par rapport à Christ. Alors, est-ce que nous voulons entendre Dieu nous parler aujourd'hui? Je dirais qu'il y a un prix à payer que tout le monde n'est pas prêt à payer, que Élie était prêt à payer. C'est faire des choix, c'est-à-dire garder nos oreilles pures, fermer nos oreilles au bruit mauvais, au son mauvais, c'est-à-dire aux paroles de jugement, aux critiques, aux paroles négatives, à tout ce qui nous environne, qui peut nous troubler. Dire « non, je ne participerai pas à ces conversations, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour mon âme ». Et puis faire le choix clair de laisser Dieu remplir notre esprit de sa pensée, de sa parole. Et cela, eh bien, nous connecte en quelque sorte avec ce Dieu du ciel. C'est ce que nous devons rechercher. C'est Paul qui dit « attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Donc il y a un effort, il y a une recherche que tout le monde n'est pas prêt malheureusement à faire. Élie le fait, mais quelles sont nos préoccupations? Si mes préoccupations c'est uniquement mes besoins, les choses terrestres, qu'est-ce que ce qui m'importe, je ne cherche pas la volonté de Dieu et je vais me concentrer uniquement sur ces choses-là, eh bien finalement je n'entendrai pas Dieu dans mon cœur me parler. Mais si mes préoccupations sont célestes, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je dise dans cette situation? Quel est ton plan pour ma vie? Et dans cette difficulté, comment est-ce que tu veux intervenir? Parle-moi, Seigneur, je veux entendre ta voix. Un jour, j'ai fait cette expérience moi-même. Je n'étais pas encore chrétien complètement. Je venais à l'église. Je n'avais pas encore donné mon cœur au Seigneur. Mais la première prière vraiment sincère que j'ai fait monter vers Dieu, j'avais prié bien des fois avant, j'avais parlé à Dieu de plusieurs manières. Mais cette prière que j'ai fait monter, j'avais 17 ans, c'était « Seigneur, si tu existes, parle-moi ». Voilà une prière que j'ai demandée à Dieu. « Si tu existes, parle-moi ». Et je peux vous assurer que Dieu m'a répondu. Alors, je ne savais pas comment il allait le faire, s'il allait le faire, par qui il allait le faire. Je n'ai pas entendu une voix du ciel parler, mais c'était dans un culte le dimanche suivant. Un don spirituel, un parler en langue, une interprétation. Et la dame qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas ma prière. « Tu m'as prié, cette semaine, je te réponds ce matin, j'existe, tu es entre deux chaises, et elle commence à dévoiler ma vie. Et c'est comme si Dieu, à qui j'avais dit, si tu existes, parle-moi, il est en train de me parler, non pas directement par une voix, mais par la voix d'une personne à qui il a mis une pensée dans son cœur. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Car Dieu peut utiliser une personne pour nous parler. C'est tellement précis, c'est tellement... Il n'y a personne qui peut le savoir, c'est Dieu qui parle. Et j'avais tellement soif que Dieu parle que j'ai compris que c'était Dieu qui parlait aussi. Et c'est pourquoi il nous faut être ouverts et réceptifs pour entendre sa voix. Je suis sorti de ce culte, j'étais né de nouveau. J'avais accepté Christ comme sauveur, mes péchés avaient été dévoilés, j'avais confessé tous mes péchés, je m'étais repenti, j'avais pleuré sur mes péchés et j'avais reçu Jésus dans mon cœur. J'étais rempli de l'amour de Dieu. Voilà ce que Dieu fait quand il parle. Il change des situations. Il a changé ma vie, il a changé ma destinée, et c'est pourquoi aujourd'hui je suis au milieu de vous pour témoigner de ce que Jésus fait, de ce que Dieu fait. Il agit si on veut écouter sa voix, si on ouvre notre cœur. Premier point donc que nous voyons, c'est apprendre à écouter Dieu. Deuxième point, c'est de parler à Dieu avec ferveur. Verset 42. Acab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. C'est-à-dire, il se prosterne, il prie Dieu. Remarquez la grande différence entre Acab et Élie. Regardez l'attitude. Le premier, le roi Acab, lui, il monte dans un but bien précis. Il monte pour manger et pour boire. Est-ce que vous voyez Acab prier? Est-ce que vous voyez Acab chercher Dieu? Est-ce que vous voyez Acab... avoir soif d'entendre la voix de Dieu? Jamais. Il est dans une autre optique. Lui, il cherche manger, boire, les choses terrestres. Voilà. Sa vision est extrêmement réduite, limitée. Regardez maintenant Élie. Lui aussi, il monte, il va sur le Carmel. Donc, c'est deux hommes qui sont au même endroit. Ce sont deux hommes qui connaissent Dieu, mais l'un méprise Dieu, ne considère pas que c'est important qu'il parle. L'autre, il se met en prière, c'est-à-dire il se prosterne et il va écouter ce que Dieu veut dire. Il va prier dans le lieu secret. Élie se met à l'écart, il cherche la face de Dieu. Important, il gravit la montagne, ça veut dire qu'il y a un endroit qu'on doit trouver qui est séparé, un endroit mis à part. Jésus l'appelle le lieu secret. Quand tu entres dans le lieu secret, tu pries ton Père qui est là et il te le rendra. Trouver un lieu de prière. Le Carmel signifie campagne fertile, grand jardin. C'est un lieu d'abondance. Et c'est là que Dieu va répondre à Élie. Rappelez-vous qu'on est dans le contexte de la sécheresse. Il n'a pas plu depuis 3 ans. Mais on voit un homme qui est capable de trouver un jardin fertile et de s'adresser au Dieu qui fait le miracle. C'est ça, pour nous, qui va être différent. C'est qu'au sein de la sécheresse, nous savons que Dieu a un plan pour ses enfants. Je remarque son attitude en parfaite communion avec Dieu. Il ferme ses oreilles à tous ces bruits et puis peut-être aux discours d'Acab qui sont vraiment mauvais. Et il va là se tenir prosterné devant Dieu, en communion avec Dieu. Je dirais que c'est une position de profond recueillement, de dépouillement, d'humilité devant Dieu en disant « Seigneur, nous ne pouvons pas nous en sortir, mais toi tu as la solution ». En fait, il se concentre sur Dieu tandis qu'il envoie son serviteur dehors pour regarder au loin. Mais lui, il a une autre vision. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous présente ceci. La prière agissante, ou une autre version dit la prière fervente. C'est pour ça que nous devons prier avec ferveur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il va être fervent. Il va prier de tout son cœur. Ce ne sont pas quelques mots qui sortent de ses lèvres. C'est une prière intense. Verset 43, troisième point, je remarque sa persévérance. Alors que beaucoup auraient abandonné, eh bien, Élie est un homme qui ne lâche rien. Il envoie son serviteur en lui disant, « Regarde du côté de la mer. » Et à chaque fois que cet homme revient, le serviteur dit à son maître, Élie, « Il n'y a rien. » Et il n'y a pas plus décourageant que quand vous entendez constamment, « Il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. » C'est toujours pareil. Ça, c'est l'apparence. En réalité, Élie est dans un autre raisonnement. Même s'il n'y a rien qui bouge en apparence, Élie sait que du moment qu'il est en prière et qu'il s'attend à Dieu, les choses se mettent en place. On ne le voit pas avec nos yeux, mais c'est en train de se manifester. Il y a un petit nuage quelque part là-bas au loin qui est en train d'arriver. On ne peut pas le voir encore, mais il est en train d'arriver déjà, au moment où Élie est en prière. Voyez, dans le Nouveau Testament, on a un homme qui s'appelait Corneille, qui était un centurion, un chef romain, qui déjà, lui, bien qu'il n'était pas encore converti, qu'il n'avait pas accepté Christ dans sa vie, il faisait monter des prières et faisait des aumônes aux dieux d'Israël, à sa manière. Il cherchait Dieu. Alors qu'il est en prière, un ange se manifeste à lui comme une révélation, lui dit « Tes prières et tes dons sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Lui, il ne savait pas que, alors qu'il était là en prière, qu'il cherchait Dieu, que ses prières, en fait, dans le monde invisible, elles sont en train de monter devant Dieu. Et que Dieu a envoyé un ange pour venir parler à cet homme Corneille. Et il ne le voit qu'à la dernière minute quand cet ange se révèle à lui. Mais tout cela s'est passé dans l'invisible. Et à ce moment-là, cet ange le met en contact avec Pierre. Pierre vient chez lui, lui annonce l'évangile, il se convertit. Tout va aller très vite. Mais en réalité, tout part de la prière. Une prière où l'on ne voit rien avec nos yeux, une prière où l'on fait monter vers Dieu nos requêtes, et elles vont jusque devant le trône de Dieu, et Dieu envoie un ange. Dieu envoie une... Là, ça va être un petit nuage qui va venir. Dieu envoie une solution à notre difficulté, à notre problème, mais avec nos yeux, nous ne la voyons pas encore arriver. Et c'est là qu'il nous faut persévérer. Remarquez qu'en apparence, donc, il ne se passe rien. Il envoie son serviteur une deuxième fois. Il ne se passe toujours rien. Et c'est là qu'on va être testé, on va être éprouvé dans la persévérance. Est-ce que tu vas continuer à prier? Est-ce que tu vas lâcher? Est-ce que tu vas persévérer? Eh bien, Élie n'est pas de ceux qui lâchent facilement. Élie, donc, va être confiant. Dieu a fait une promesse dans son cœur. Il sait que la bénédiction arrive. Alors, il renvoie une cinquième fois, une sixième fois. Et là, la plupart d'entre nous, on est tenté d'arrêter en se disant, bien, Dieu n'a pas répondu. Donc, c'est que Dieu a certainement un autre plan. Et c'est là où il nous faut être confiant et persévérant malgré les apparences. Car même si la sixième fois, il n'y a toujours pas de réponse, il n'y a toujours aucun signe évident, mais est-ce que nous ne sommes pas tentés de marcher aux signes? Est-ce que ce sont les signes qui nous font marcher ou est-ce que c'est la foi dans la parole de Dieu qui nous fait marcher? Et c'est là où nous avons souvent un piège, c'est qu'il nous faut toujours des signes pour avancer. Or, Dieu nous dit dans sa parole, vous ne marchez ni, non plus par la vue, mais par la foi. Il n'y avait pas de petit signe, il n'y avait même pas encore le petit nuage, mais Élie ne marche pas par le signe. Il dit, moi je marche par la foi et je sais qu'on ne voit rien avec nos yeux, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et donc effectivement, la septième fois sera la bonne. Le serviteur revient avec la bonne nouvelle. C'est le quatrième point, la vision spirituelle. Car devant le même événement, les deux, le serviteur et Élie, n'ont pas la même attitude. Quand le serviteur regarde au verset 44, septième fois, « Ah, je vois un petit nuage, mais il est tellement petit, pas plus grand que la paume d'une main. » Sous-entendu, avec ça, qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire? Ce n'est pas suffisant. Tandis que Élie, quand il voit le petit nuage, il entend, en fait, il ne l'a même pas vu, mais il entend la nouvelle du serviteur, c'est bon. Pour Élie, c'est bon. Va dire à Acab, descends, car la pluie arrive. Pour lui, c'est la pluie. La pluie n'est même pas encore là, mais il parle déjà de la pluie. Voilà la vision différente entre ce serviteur qui s'arrête uniquement, je dirais, à une vision terrestre et humaine des choses, un petit signe, mais c'est déjà ça. Pour lui, c'est insuffisant. Et puis, l'homme de foi, ou la femme de foi qui dit, la pluie est là. Il n'y a que ce petit nuage, mais je confesse, la pluie est là. Elle arrive, elle se manifeste, il parle au présent. C'est une chose qui n'est pas encore, mais c'est comme si elle était là. Celui qui a peu de foi verra peu de choses et rien ne se passera dans sa vie. Celui qui nourrit sa foi, qui avance dans la foi, qui s'attend à Dieu à chaque pas, il verra la main de Dieu agir, il verra des belles choses s'accomplir dans sa vie. Tout est une question de vision de foi et de s'attendre à Dieu. Par exemple, l'ami de Jésus qui s'appelait Lazare, un jour, est mort. Jésus tardait à le voir alors qu'il était souffrant. Et quand il est mort, il est allé finalement. Il a été accueilli par Marthe et Marie, qui sont les deux sœurs du défunt. Et lorsqu'il arrive donc à la propriété de Lazare, les deux sœurs lui reprochent, « Si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Les deux lui disent la même chose. Mais Jésus dit à Marthe, « Si tu crois... » Et Jésus place toujours la foi en premier. Ce n'est pas si tu doutes ou si tu utilises tes yeux humains, mais si tu crois. Donc la foi, voyez-vous, c'est, on va dire, en tête de chapitre. Si tu crois, alors les choses vont se mettre en ordre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le miracle va se manifester, la puissance de Dieu, Dieu va se glorifier, et c'est ainsi que Jésus a fait. Et il a simplement prié Dieu, qui est le Dieu de la résurrection. Ils ont ouvert la tombe où Lazare était, l'âme de Lazare est retournée dans son corps et il est sorti vivant. Mais il fallait croire d'abord et non pas s'arrêter simplement sur la mort qui était là, c'était vraiment fini. Non, la foi c'est encore au-dessus de ce qui est terminé. On dit c'est impossible, oui, mais si tu crois, ce qui est impossible devient possible. Si tu crois, ça change les temps et les circonstances. Même si vous ne voyez rien pour l'instant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Élie est dans cette dimension, et quand on est dans cette dimension, qu'est-ce qui se passe? Ça change tout dans notre vie. Ça change notre vision des choses, on ne voit pas d'une manière négative, mais on apprend à voir comme Dieu voit, mais aussi ça change notre manière de parler. La fin du verset 44 dit, il dit à Akab, « Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas en chemin. » Il n'y a qu'un petit nuage, mais qui est très lointain, mais Élie prend déjà les dispositions parce que la pluie, c'est comme si elle est là. Il faut partir tout de suite pour ne pas être gêné par lui. Donc, ses décisions vont être influencées par sa foi, ses paroles vont être influencées par sa foi, sa vision est influencée par sa foi. Tout en lui, en fait, va être animé par la foi. On ne voit plus comme avant, on ne parle plus comme avant. On va avoir des paroles d'encouragement, on va avoir les paroles que Dieu met dans notre cœur, puisqu'on entend Dieu. Et ça, ça va être très encourageant. La foi va nous rendre positifs quand le doute est là, quand l'incrédulité domine. Regardez quand les 12 espions sont revenus après leur excursion. Ils avaient été envoyés par Josué pour explorer ils étaient plutôt avec Josué et Caleb. Ils étaient partis, envoyés par Moïse pour explorer le pays et revenir avec les informations. Et 10 des 12 ont dit « Oui, c'est vrai ce que Dieu a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est certain. » Mais il y a des géants, mais il y a des tours fortifiées et nous ne pourrons jamais les vaincre. Et ces paroles, cette vision qu'ils ont eue, c'était vraiment la vision du pays. Mais en même temps, ils avaient le doute dans leur cœur, ils avaient l'incrédulité et leur parole était incrédule et leur vie a été gâchée. Ils ont perdu 40 ans à tourner dans le désert. Tandis que les deux autres qui s'appelaient Josué et Caleb ont vu les mêmes choses, mais ils ont dit « Oui, c'est vrai, il y a des géants. Oui, il y a des tours fortifiées, mais par la foi, qu'est-ce qu'ils disent ?» « Allons et nous serons vainqueurs. » Ce sont des paroles de foi. Ils peuvent dire cela, non pas à cause de ce qu'ils voient, parce qu'ils voient les mêmes choses que les autres, mais à cause de la foi qui les anime, ils disent « Nous serons vainqueurs. » Parce que Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Donc votre foi va animer votre discours, va animer vos actions, vos décisions d'une autre manière. C'est pareil avec David un peu plus loin, dans 1 Samuel 17 et au verset 32, alors que David arrive sur le champ de bataille et qu'il entend ce géant Goliath proférer des insultes envers l'armée d'Israël et que tout le monde est pétrifié, il dit, alors lui il est animé de foi, la différence du roi Saül, alors là on voit très bien la différence entre David et Saül, car quand vous êtes animé par la foi, voici les paroles de David, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Ça, ce sont les paroles de David au roi Saül. Pourquoi ? Parce que David est rempli de foi et ses paroles communiquent un encouragement. Que personne ne se décourage. Si vous êtes rempli de foi, vous allez encourager les autres. Et aussi, vous allez avoir des paroles de victoire et des paroles de confiance en Dieu. Ton serviteur ira se battre. Regardez maintenant les paroles de Saül. Tu ne peux pas aller te battre avec lui. Tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un homme de guerre, ça manifeste de l'incrédulité. Ça manifeste quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut faire le miracle, quelqu'un qui ne croit pas que Dieu va agir. Il lui revêt son armure, ça ne fonctionne pas. Donc Saül est pétri de l'incrédulité. Et quand vous êtes comme Saül, vous ne pouvez pas avoir des paroles de foi, ce n'est pas possible. Il nous faut d'abord laisser le Seigneur remplir notre cœur. Et c'est juste avec une fronde et une pierre et cinq pierres, mais il n'a utilisé qu'une pierre, que David est allé confronter le géant Goliath, et que Dieu a dirigé la main de David afin que la pierre atteigne le front du géant qui s'est effondré en un instant. Avec Dieu, tout est possible, frères et sœurs. Il ne faut pas regarder au géant en disant « ce n'est pas possible, le géant est plus puissant ». Ça, c'est qu'on n'est pas dans la foi, on n'est pas dans la pensée de Dieu. Car jamais, jamais dans la Bible, Jésus dit « oh, le diable, il sera plus puissant que vous. Si vous croisez des serpents, des scorpions, fuyez devant eux ». Jamais vous voyez ça. Au contraire, marchez dessus. Vous avez l'autorité, dans la mesure où vous avez la foi. Car si vous êtes incrédule, c'est certain que vous allez fuir. Et vous n'aurez même pas besoin de vous poser la question parce que vos yeux seront rivés sur la difficulté et automatiquement, on se décourage et on fuit. Un dernier point, c'est la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'Élie. Au verset 46, donc un homme de foi, un homme qui ouvre ses oreilles, un homme qui prie, un homme qui cherche la face de Dieu, qui a une vision de foi, qui s'attend à Dieu, ça se poursuit avec l'exaucement de ses prières, mais aussi sa vie de puissance par l'Esprit, car il se met à courir, alors qu'en un instant la pluie arrive, il courut si vite qu'il devança le char et les chevaux du roi Achab. Ça, c'est le miracle. Je remarque une petite expression, voyez au verset 45, « en peu d'instants ». À partir du moment où le petit nuage était en vue, il n'a pas fallu très longtemps pour que la pluie arrive sur tout le pays, en peu d'instants. Et j'aimerais vous dire ce matin, et de la part du Seigneur, peut-être ça fait des mois, ça fait des années, là ça faisait 3 ans et demi qu'ils étaient en attente d'une solution par la pluie. Eh bien, la solution est arrivée non pas en 1 mois, en 6 mois ou en 1 an, elle est arrivée en peu d'instants. Du jour au lendemain, la situation a changé, les problèmes se sont débloqués, la pluie est arrivée. Voilà comment notre Dieu agit. Il peut agir du jour au lendemain. Et vous vous dites, mais comment Dieu va faire? Et ça va durer des mois, et peut-être on ne va pas s'en sortir. Non, non, non. Il y a un contraste entre l'attente, la persévérance dans la foi qui peut durer des mois, qui peut durer des années, et la manière dont Dieu manifeste sa grâce qui peut arriver du jour au lendemain. Mais il nous faut nous attendre à cette action bénie. La pluie se met à tomber fortement. Alors, je remarque encore Achab. Lui, c'est l'incrédule complet. Il n'était pas parti sur la parole de l'Éternel, parce que lui, tant qu'il n'y avait pas la pluie, il ne serait pas parti. C'est l'homme incrédule complet, c'est-à-dire tant qu'il ne voit pas, il ne fait rien. Et quand la pluie est arrivée, il a commencé à partir, comme Dieu lui avait dit, par l'intermédiaire du prophète. L'incrédule, lui, il n'obéit jamais à Dieu, il veut voir d'abord et ensuite il agit. Ce sont des personnes qui n'avanceront pas dans l'œuvre de Dieu, qui ne pourront pas servir le Seigneur pleinement. Dieu, au contraire, avait parlé, mais ce n'était pas suffisant pour Achab. Il n'en a eu que faire. Il voulait voir de ses yeux. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Ça, c'est le signe de l'approbation de Dieu. Il a prié, il a persévéré, il a eu la vision et il a triomphé. C'est Dieu qui dit à David dans 1 Samuel 2:30 « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et c'est ainsi que Élie a été honoré, parce que il a honoré Dieu et il a couru devant. Il a vécu dans la puissance du Saint-Esprit. C'est une belle vie, la vie chrétienne, quand on est vraiment dans la pensée de Dieu, dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas une vie d'incrédulité, de doute, où on conteste toujours avec Dieu, où on ne veut pas faire sa volonté. C'est une vie de joie, c'est une vie de plénitude, c'est une vie de miracle, une vie de bénédiction. En conclusion, donc, je vous laisse ces quelques points. Comme Élie, nous pouvons entendre la parole de Dieu, alors que d'autres n'entendront rien. Ça dépend de chacun. Nous pouvons prier quand d'autres vont préférer manger et boire, mais ça, c'est une décision personnelle. Nous pouvons persévérer alors que tout nous dit « arrête, ce n'est plus la peine ». Et puis, nous pouvons vivre dans la puissance du Saint-Esprit alors que d'autres considèrent que ce n'est pas utile. Ce sont des décisions que nous pouvons prendre en cherchant sa face. Il y a un prix à payer, il y a une recherche de Dieu, il y a une écoute par le Saint-Esprit, il y a un renoncement à opérer, et c'est à chacun de se positionner. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta grâce. Nous croyons que ce qu'Élie a vécu, Seigneur, tu le permets encore aujourd'hui, car tu es ce Dieu de miracles, ce Dieu qui manifeste encore ta puissance, ta gloire, même si les hommes sont incrédules, comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, ils n'avaient que faire de ce prédicateur de la justice, Noé, qui annonçait le déluge. Mais lorsque tu as décidé d'intervenir, que tu as laissé suffisamment de temps la grâce se manifester, et le déluge est survenu et les a emportés car ils n'ont pas voulu entrer dans l'arche, bien nous croyons qu'il en sera de même au retour du Fils de Dieu. Lorsque Jésus reviendra, eh bien tous ceux qui auront cru seront enlevés dans la gloire, mais ceux qui auront été incrédules, qui auront rejeté, ne seront pas pris. Alors nous te prions, Seigneur, pour que au milieu de nous, nous puissions vivre des temps de rafraîchissement, de vivre cette vie de l'Esprit, de vivre dans la foi et non dans l'incrédulité, de vivre, Seigneur, dans la confiance, dans l'écoute de ta parole, même dans les moments de désert, car parfois ce sont des moments d'aridité, ce sont des moments où des obstacles se dressent devant nous. Il y a comme ces géants qui sont là, il y a aussi des forteresses, et peut-être quelqu'un est dans une situation où financièrement il ne voit pas l'issue, où la maladie a fait son œuvre, où peut-être il cherche des solutions et ne trouve pas dans son travail, car les portes sont fermées. Peut-être c'est dans la famille une souffrance qui est survenue, mais nous ne voulons pas baisser les bras et croire dans le Dieu du miracle. Il n'y a que toi qui peux changer ces situations. Et Seigneur, nous te faisons pleinement confiance dans le nom de Jésus. Amen. Amen.